Torahbox.com. Pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous retransmet un enseignement de Madame Vanessa Benzaken. Bonne écoute et bon limoud.
La première chose qu'on va devoir démystifier, c'est que le fait de n'être pas encore arrivé à la perfection n'est pas ce qui sabote notre mission éducative. La phrase du Rav, qui fait tellement plaisir aux gens en général, c'est « L'expérience prouve qu'après de nombreuses années d'observation, le fait que nous ne sommes pas parfaits et que nous ne parvenons pas toujours à être à la hauteur de nos idéaux, ce n'est pas ça qui endommage les enfants. » En général, on me dit « Vous pouvez la répéter ?» Non, mais vous avez compris vite. C'est pas ça qui endommage les enfants. Il dit, c'est pas, c'est un fait qui est vérifié sur le terrain. Il dit, en vérité, c'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on est des créatures en ce qu'on appelle des produits évolutifs. Si on était parfait à 20 ans et 25 ans, ça serait un autre plan. Mais là, c'est pas comme ça. On est en cours d'acquisition, on a une vie, il y a certaines choses qui prennent la vie à travailler, ou qui prennent des fois des années à travailler, et les enfants, ils grandissent pendant ce temps. Alors quoi? Encore une fois, il s'agirait d'un piège d'avance? Ça peut pas être. HaKadosh Baruch Hu, il veut qu'on réussisse plus que nous, on veut réussir. Donc ça peut pas être, ça ne tient pas la route, pas chaud. Sur une HKFA juive, ça peut pas tenir la route, une chose comme ça. Que le fait qu'on est encore incohérent, et pas encore des gens parfaits, oui, que ça nous sape notre travail de chinuch, c'est pas possible. C'est parce que ça ne marche pas avec le plan de HaKadosh Baruch Hu. On dit Istakel Beoraita ou Baralma. HaKadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah qui est le plan architectural du monde, et il a créé le monde. Donc ça veut dire que le monde, il doit correspondre aux drichot de la Torah, aux demandes de la Torah. Or, la Torah, elle a prévu qu'on a 120 ans pour se travailler. Elle a prévu qu'à 20 ans, en général, on est loin d'être un modèle tout à fait travaillé. Elle a plutôt un modèle artisanal. Ouais. Et donc, si c'est comme ça, alors comment c'est possible? Alors comment se dépatouiller de cette affaire? Donc ici, on est en train de voir quoi? Que le fait qu'on est en cours d'acquisition et en cours d'avancement ne fait pas de mal aux enfants. Ce qui peut, oui, être préjudiciable, c'est lorsqu'on s'est installé dans des erreurs. C'est pas du tout la même chose. Faire des erreurs parce qu'on faiblit, parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur de nos idéaux, parce que des fois on n'y arrive pas, tout en voulant progresser, tout en voulant avancer, c'est pas du tout la même chose que faire des erreurs en les posant en méthode. Vous vous souvenez, on a toujours décrié ça. Depuis le début de nos analyses, on a toujours dit, nous on se bat contre ça. On se bat pas contre le fait qu'on n'est pas parfait. Être pas parfait, c'est notre travail. On est là pour travailler, se rendre plus perfectible. Mais ici, l'idée, c'est lorsque quelqu'un, il a converti une erreur en système de pensée. Lorsque cette erreur ou cette incohérence, elle devient une doctrine, une méthode, là, oui, c'est dangereux. D'accord? Mais le fait que, eh ben, parfois on faiblit et parfois ça peut prendre plusieurs années de travailler certaines choses, c'est pas ça qui nous sape le travail et c'est pas ça qui va alors qu'on a présenté l'exemple personnel comme un outil très puissant de Rino, c'est pas ça qui va nous neutraliser cet outil qui s'appelle Dugmeishit. Pas du tout. À la rigueur, il dit le Rav. Il dit, si j'enseigne à mes enfants de ne pas mentir, et que Chas Veshalom, pas moi, mais le parent, il a échoué, il a menti. Une fois comme ça, il s'est trompé, ouais. Il dit, si il reconnaît avoir menti, ce même échec se transforme en interaction éducative. D'accord? Alors que l'idée, c'était ne faites jamais d'erreur, ne faites jamais de faute. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être honnête. L'idée, c'est d'être en progression, d'être en mouvement, d'être beishtadlut, de faire les efforts pour se diriger vers l'idéal. D'accord? Puisque toujours, toute la vie, le Ben Adam, il sera dans une guerre perpétuelle entre le Ratsoui et le Matsoui, entre ce qu'il veut, son idéal, et ce qui existe. Toute la vie, il va être dans cette guerre-là. Et c'est précisément cette guerre qui met sous tension toutes ses forces pour qu'il avance. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand on s'est installé dans certaines erreurs. Et je pense que ça ne nous concerne pas du tout. N'est-ce pas? Il dit, le Rabbi Jacobson, que la preuve la plus convaincante de cette chose-là, c'est que eux, ils ont audité des centaines de jeunes adolescents. Et des centaines de jeunes adolescents qui étaient mamache en révolte. Il dit, pratiquement jamais, ces adolescents soulèvent le problème de Dougma Eshit. Pratiquement jamais, ils disent, oui, mon parent est incohérent. Pratiquement jamais. Il dit, ça représente 2% des cas qu'ils soulèvent ce sujet-là. Autrement, ils ne soulèvent jamais ce sujet-là. Donc ça prouve que ce n'est pas ça l'impact négatif. Ce n'est pas ça le problème. Et donc, dans un prisme spirituel, à nous, juifs, on sait que dans la nature même d'une vie spirituelle, il y aura des montées et des descentes. Il y aura des chomrim, shevaipol tzadik vakam. Cette fois, le tzadik, il tombe et il serait... c'est comme ça qu'est décrite et c'est ça la feuille de route. Donc si c'est comme ça, ça doit correspondre forcément à la réalité du dogma eshit. Ça doit correspondre à la réalité et les définitions de l'exemple personnel. Les définitions de l'exemple personnel ne peuvent pas contredire cet état de fait de base que Sheva Ipol Tzadik Vaka, mais que c'est comme ça, c'est la feuille de route, c'est comme ça que c'est fait. D'accord? Donc tout doit être en correspondance. Alors voilà. Donc l'idée, c'est pas de se dire maintenant, de se décourager en se disant oui, l'exemple personnel c'est le plus important finalement, et on n'est pas parfait, donc c'est une catastrophe. Pas du tout. C'est de se dire simplement, on va tâcher de ne pas s'enfermer dans certaines erreurs, et de se dire que même une erreur, lorsqu'on a reconnu que c'en est une, elle peut devenir carrément éducative. D'accord? D'autre part, un parent qui reconnaît son erreur, d'une certaine manière, il est un dogma eshit extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il enseigne à ses enfants qu'on peut se tromper, mais qu'on est capable de s'interpeller, qu'on est capable de changer, qu'on est capable de reconnaître la vérité. Donc c'est un apport éducatif extraordinaire. D'accord? Donc ne pas avoir peur de l'erreur, avoir peur de s'empêtrer dans l'erreur. Ça va? Voilà. Le Rav Yaakov dit c'est très important de faire ce réajustement, parce qu'autrement les gens ils sont paralysés. On leur parle de dogma eshit, ils sont culpabilisés et paralysés, et du coup ils ne se servent pas du dogma eshit. Et vous allez voir comment on va s'en servir. Be'ezrat Hashem. Alors, il donne un petit exemple, une petite anecdote très parlante, où là on va enfin mettre le clair sur qu'est-ce qui se passe dans le monde intérieur d'un enfant lorsqu'il assiste à une contradiction. Je le définis comme contradiction à notre niveau à nous, mais je précise que l'enfant, ce n'est pas une contradiction qu'il voit. Maintenant, on va essayer de se mettre dans les yeux d'un enfant et comprendre comment ça marche chez lui. La petite histoire qu'il raconte le Rav Yaakovson, une histoire assez connue, il dit qu'une fois, un avraire a dû rester à la maison garder sa fille du Gan, en âge du Gan, 5 ans environ, parce qu'elle était fiévreuse, donc il a dû la garder à la maison, et maman est Mora, donc il a dû s'absenter pour garder la petite. Et il s'est mis avec sa Gemara sur la table, et elle, la petite, elle jouait dans le salon. Et elle s'est mise à jouer à la poupée. Et puis au bout d'un moment, lui était concentré dans sa Gemara, au bout d'un moment, il entend beaucoup de chahut, et il voit que la petite, elle est avec sa poupée comme ça, et elle dit à sa poupée, elle se fâche sur sa poupée, et elle lui dit, « Mais ça fait 1000 fois que je te répète de ne pas faire ça, espèce d'idiote! Tu vas voir quelle punition je vais te donner !» Et elle commence, « L'étaltel tabouba, kaha !» Elle commence à l'agiter dans tous les sens. Alors la vraie qui était concentrée dans sa sougia, il lève le nez, et il lui dit, « Mais pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Alors la petite, elle dit, « Mais non, Zerak Misrak, c'est juste un jeu !» Alors, il lui dit, mais c'est quoi ce jeu? Pourquoi il y a besoin de crier dans le jeu? Alors, elle lui répond, bah, parce que dans le jeu, je suis la maman. Alors, le père, il dit, mais quoi? La maman, elle a le droit de crier? Elle a le droit de se mettre en colère comme ça? Alors, voilà la réponse extraordinaire de la petite. Ben oui. C'est juste les enfants qui n'ont pas le droit de se mettre en colère, mais les parents, ils ont le droit. Il dit « Sot soda shel chinuch l'arachim sham ». Ici, vous avez tout le tamti, tout le condensé de la compréhension comment un enfant il perçoit les choses. Le père en choc, il lui dit « Mais quelles autres choses les parents ont le droit de faire que les enfants, ils n'ont pas le droit ?» Alors la petite, elle lui fait un chiour de chinour. Elle lui dit, ils peuvent aller dormir quand ils veulent. Et puis, ils peuvent manger des mêmes takims quand ils veulent. Il dit, vous savez, les enfants, on croit qu'ils dorment. Ils entendent très bien 11h30 dans la cuisine le bruit du cellophane. Ouais. Et puis, il dit, et quoi d'autre? Elle dit, la guide milim lo yafot. Dire des gros mots. Le père, il dit, quel gros mot les parents, ils ont le droit de dire? Elle a dit, les machal tip shahat. Par exemple, idiote. Alors, il était complètement en état de choc, le pauvre, le père, je crois qu'il a pris une douche très froide. Et donc, il était complètement décontenancé devant ce qui s'est passé. Regardez, on va tirer maintenant les conclusions de cette histoire. Il dit, le point central dans le dogma Eshit, dans l'exemple personnel, il dit, ce n'est pas que les enfants, ils pensent que nous sommes incohérents et hypocrites quand ils assistent à une contradiction. Il dit, alvaï que c'était ça, ça aurait été plus simple. C'est pas du tout ça. Alors qu'est-ce qu'ils voient? Ils disent ça, ceux qui disent comme ça, que les enfants ils voient une contradiction et donc ils apprennent eux-mêmes à être contradictoires, ils disent ça, c'est des gens qui sont inexpérimentés en matière de chinour. Ou c'est des gens qui n'ont pas encore bien compris quelles sont les modalités de perception de l'enfant. Dans les yeux d'un enfant, voilà ce que la contradiction elle provoque. Étant donné qu'un enfant, il ne peut pas voir que son parent est incohérent. Il ne peut pas. C'est pas qu'il veut pas ou qu'il est vendu parce qu'il aime son parent. C'est pas du tout ça. Pachout, il ne peut pas. Il n'a pas les outils. Il n'a pas les kelim pour ça.
À quel âge?
Jusqu'à 6-7 ans, il dit. Il dit à partir de 7 ans, commence à se former la tfissa moussarit, commence à se former la perception d'une échelle d'éthique, de valeur. Et là, il peut commencer à constater que c'est pas beau de mentir ou que c'est pas beau de se mettre en colère. Mais jusqu'à 6-7 ans, il n'a pas encore d'échelle moussarite, d'échelle de valeur. La fixation de l'échelle de valeur, c'est le parent. C'est pour ça que je vous disais, des fois presque en souriant, quand un parent, par exemple, un enfant, il écrit sur le mur, le parent fait... Alors l'enfant, il interprète que c'est très 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 grave d'écrire sur un mur. Vous avez compris? Bon, surtout, avant Pessah, c'est pas grave, on va refaire la peinture, mais après, c'est énervant. Par contre, s'il a fait un acte éthique qui n'est pas très souhaitable et qu'on lui dit « c'est pas beau, hein ?» Il interprète que « bon, c'est pas terrible, mais enfin, ça va, quoi. » Vous comprenez ? Donc, le coefficient de réaction du parent est le déterminant de l'échelle de valeur de l'enfant. L'enfant, il n'a pas d'autre sarguelle, il n'a pas d'autre baromètre. Donc, étant donné que l'enfant, il ne peut pas voir son parent comme incohérent ou hypocrite, donc voilà ce qui se passe dans son petit esprit. Il voit une contradiction. Il interprète donc qu'il y a des choses qui sont permises pour les parents et interdites pour les enfants. Alors, lorsqu'il s'agit du monde fonctionnel, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que les enfants, ils doivent dormir à 19-20 heures et que les parents, ils vont dormir à 23 heures. Il n'y a aucun problème avec ça. Parce qu'on est dans le monde fonctionnel. D'accord? Mais quand ça arrive au monde des valeurs, là, on a un problème. Les parents, ils ont le droit de mentir et pas moi. Vous savez, c'est comme ces petites choses qui ont l'air toutes bêtes et toutes simples. Comme, dis que je suis pas là, dis que je dors. Attends, qu'est-ce que tu lui apprends là? Qu'est-ce que tu lui apprends? Qu'on a le droit de mentir?
C'est faire une blague. Ça peut être aussi dans le cadre de faire une blague.
Bon, c'est une blague, je ne sais pas quel genre de blague, mais pourquoi pas, mais ça veut dire, en règle générale...
On dit au téléphone, oui. Ah non, oui. J'ai cru que le gosse, quelqu'un rentre et il dit que je ne suis pas là pour le faire boum.
Non, supposons là que par exemple, on ne veut pas prendre le téléphone. Oui, dis que je ne suis pas là. Alors quoi, tu lui as dit, et lui quand il ment, sourd le choqueur, on n'a pas le droit de mentir. Et mais qu'est-ce que tu fais là? Tu lui apprends. Ou alors, mieux encore, plus fin encore. Une fois on me demandait, oui, quand un enfant il ment, je lui dis, tu sais, si tu mens... Ton nez, il va grandir. Alors, elle dit, est-ce qu'on peut dire ça? Je dis, mais quand vous lui dites ça, vous lui mentez. J'ai dit, donc, vous voulez lui apprendre à ne pas mentir en mentant? Je n'ai pas compris. Erzitze, que cette salade me bourra, comment ça va sortir, ça? Ça ne marche pas. D'accord? Ou les bandits vont te... Vous savez, cette histoire-là. Mais non, ne lui mens pas. Et après, tu lui dis, on n'a pas le droit de mentir. Non, ça ne marche pas, ça. Vous comprenez? Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il perçoit? Il perçoit que le parent a le droit et pas les enfants. Je vous assure que je l'ai vu de mes yeux et je l'ai entendu de mes oreilles. Avec les enfants qui savent le dire. Il y en a qui ne savent pas le dire. Il y en a qui savent le dire. À des enfants comme ça, comme il dit le Rav exactement, des enfants comme ça de 6-7 ans, à quelques années. J'avais entendu quelque chose, je ne sais plus ce que j'avais dit, oui, c'était pas très bien de faire comme ça. La réponse de l'enfant qui m'a été donnée, c'était « Mais non, l'art moutard !» C'est incroyable. « Mais non, toi, tu as le droit, c'est Zera Kayeladim, moi, à Sourlaine. C'est juste les enfants qui n'ont pas le droit. Toi, tu as le droit. » J'ai vu de mes yeux ce que j'ai appris du Rav Yaakov Sof. Auquel cas, bien sûr, j'ai corrigé en disant « Non, moi non plus, je n'ai pas le droit. Et c'est pas bécédère, c'était une erreur, je me suis trompée. » Mais ça veut dire, heureusement que j'ai rattrapé comme ça, mais ça veut dire, l'enfant, de façon naturelle, c'est comme ça qu'il voit. Alors, c'est quoi notre problème ici? D'ailleurs, à titre anecdotique, le Rav, il raconte qu'il y a un questionnaire oral qui avait été fait à des enfants. Pourquoi ils veulent être grands? Et alors, chacun a répondu. Je veux être grand parce que si, je veux être grand parce que ça. Il y en a un qui avait de la jugeote. Il a dit, je veux être grand. Pourquoi tu veux être grand? Comme ça, j'aurai le droit de mentir. D'accord? Et encore une fois, ce n'est pas une accusation quand il dit ça comme ça, un enfant petit. Ce n'est pas une accusation parce qu'il n'a pas d'échelle de valeur. Il a compris, il a intégré, Slicha. Il a intégré que à papa, maman, c'est permis et moi, c'est interdit. Donc, j'ai envie d'être grand comme ça. Moi aussi, ça sera permis. Est-ce que vous avez compris l'erreur qu'il y a ici? Donc, il nous dit, le dommage réel du dogma ishit négatif, le dommage réel de l'exemple personnel qui est négatif, c'est lorsque l'incohérence, elle est posée en principe. Lorsque l'adulte, il se rend même plus compte qu'il y a une incohérence et qu'il le fait de façon régulière, sans remettre les choses à l'heure, sans repréciser que c'était une erreur. Et quand c'est comme ça, l'enfant, il perçoit quoi? Il perçoit que la réalité, elle est faite de deux parties. Le monde des déclarations et le monde de la vraie vie. Ce qu'on dit, ce qui convient de dire, la bienséance, les conventions, etc. Et comment on vit vraiment? Il dit « Vezé à Nézek ». Et c'est ça le dommage. Le dommage, ce n'est pas qu'il voit une incohérence, c'est qu'il s'éduque, l'enfant, dans une réalité normative que la vie est faite de deux parties. Ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et ce qui est terrible, c'est que ces deux parties, elles peuvent cohabiter pacifiquement, sans créer de décalage, sans créer d'inconfort, ce qui évidemment, les Sanchem ne nous concerne pas du tout, d'accord? Puisque la plupart de notre public, ce sont des gens qui veulent travailler, qui veulent avancer, qui veulent progresser. Donc quand ils font des erreurs, ils se rendent bien compte que c'est des erreurs. Ils sont mitzta'arim de ça, ils sont embêtés de ça, ils essayent de corriger, ils essayent de s'améliorer. On ne parle pas du tout de ça. On parle d'un état où il y a une paix, une cohabitation pacifique entre deux choses totalement contradictoires. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à dire certaines choses, parce qu'on est habitué à le dire, mais ça ne nous engage pas du tout dans la vie réelle. On continue d'agir comme on a l'habitude d'agir. Je sais que c'est très dur à expliquer cette chose-là parce que je pense que ça ne nous concerne pas réellement. Mais il dit que ça concerne une partie des gens. Ça s'appelle quoi? Il appelle ça en hébreu « chitsui ma'arachot ». « Chitsui ma'arachot », ça veut dire une dichotomie, une perception dichotomique. Une perception de la réalité qui est faite en deux parties. Ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau adulte? Il dit le résultat plus tard, c'est quand on se retrouve devant un public qui, par exemple, applique les commandements, mais sans aucun chibour pnimi, sans aucun lien intérieur. C'est-à-dire, c'est une réactualisation sans intériorisation. C'est comme appliquer techniquement des choses, mais qui n'engagent pas du tout l'intériorité. Il n'y a pas de ribour, c'est comme une mécanique, une dynamique morte, qui n'avance pas. Donc des gens, ils peuvent continuer comme ça. Encore une fois, je pense que ça ne nous concerne pas du tout. Mais des gens, ils peuvent continuer comme ça à fonctionner, en appliquant les mitzvot de façon tout à fait conventionnelle. Comme si c'est une habitude, comme si... Et il n'y a pas du tout de vie intérieure. D'accord? De la même façon, il dit qu'un enfant, par exemple, pour manger sa gaufrette. Il comprend qu'il faut enlever l'emballage. Oui, c'est un acte technique. De la même façon, il comprend qu'il faut faire la bracha. Mais il y a des adultes qui restent à ce stade-là. C'est-à-dire qu'il fait la bracha parce que, exactement comme quand tu dois enlever l'emballage de la gaufrette. D'accord? Vous avez compris l'idée? Évidemment, je ne pense pas que ça nous concerne. Mais le Rav, il dit, c'est une réalité qui existe. Et lorsque des enfants, donc ils ont été en contact régulièrement avec des incohérences posées en principe, je précise, pas des incohérences de parcours, mais posées en principe, ils se sont habitués à ce qu'on peut très bien fonctionner avec deux vitesses. Ce qu'on dit et comment on vit vraiment. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça reste à l'évavra, sur le cœur, dans le disconki, et n'est pas intériorisé. Et nous, on va essayer, Bezrat Hashem, de créer la fissure pour que ça soit intériorisé.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.